Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreuses et si nombreux. Merci surtout de ne pas être sur une terrasse au bord du lac ou dans les kilomètres de bouchons du Gothard. C'est la huitième séance de notre saison qui s'intitule Faire l'amour, le sexe comme expérience limite. Et cette séance est organisée en collaboration avec l'association Aspasie. Plus fort. Plus fort.
Micro, tu veux micro ?
Ouais, je pense. Donc je disais que c'est la huitième séance de notre saison consacrée au sexe et que cette séance est organisée en collaboration avec l'association Aspasie de Genève. Alors je vais commencer par vous présenter les quatre intervenants qui sont autour de cette table et puis vous donner quelques indications sur le déroulement de cette séance. Alors, à ma droite, je vous présente Angelina, qui est travailleuse du sexe depuis 25 ans. Depuis 10 ans, elle a fondé à Genève le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, dont elle est la présidente. Elle le pratique dans la rue et elle est également assistante sexuelle. Pour personnes handicapées. À sa droite, Eric a tapiné pendant plus de 15 ans dans la rue, a travaillé sur le corps et la danse. Il possède un cabinet de shiatsu, pardon pour la prononciation. Il est responsable d'un projet de prévention des prostituées hommes dans les rues pour l'association Aspasie. Judith, qui a travaillé ou qui travaille depuis 9 ans dans des salons de massage. Elle est titulaire d'un bachelor en communication multilingue et elle a également une formation d'assistante sexuelle.
C'est pas tout à fait correct, mais...
En fait, c'était pendant 9 ans.
Et elle travaille avec des personnes en situation d'handicap et les personnes âgées, ça c'est juste. Vous avez principalement des clients hommes, mais aussi quelques femmes. Et puis, vous étudiez en ce moment la sexologie clinique à l'Université de Genève. À ma gauche, Béate Michel, qui va en fait, dans une première partie, dialoguer avec ces trois intervenants. Béate Michel est co-présidente du groupe Vaudois de philosophie et c'est le responsable de cette saison consacrée au sexe. Alors donc, la première partie, ce sera un dialogue entre Béate Michel, Judith, Eric et Angelina. Et dans une deuxième partie, ça sera un dialogue avec vous, le public, et puis également avec Fabien Chapeau, qui est juste ici, qui nous rejoindra ensuite. Fabien Chapeau est biologiste, généticien, il a un bachelor en médecine, un Certificate of Advanced Studies en sexologie clinique. Depuis 10 ans, vous travaillez pour Aspasie et vous avez écrit un mémoire sur le rôle des thérapies, de thérapeutes sexuels des prostituées. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Je passe tout de suite la parole à Béate Michel. Merci beaucoup.
On va remettre. Ça va comme ça?
Oh. C'est bon? Voilà. Alors, j'aimerais quand même d'abord dire le plaisir que j'ai d'accueillir ce soir Eric, Angelina et Judith. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur de faire cette soirée sur la prostitution. Je pense que dans le cadre de notre saison sur le sexe, c'était un sujet important et surtout qu'il était indispensable de donner la parole à ceux et celles qui pratiquent ce métier du sexe. Je ne vous cache pas non plus qu'il y avait une petite angoisse jusqu'au dernier moment quand je les attendais à la gare, mais est-ce qu'elles vont vraiment venir? En tout cas, les trois sont là et je suis très très content de dialoguer avec Eric, Angelina et Judith. Je vais peut-être d'abord dire un mot un peu sur l'angle sous lequel j'aimerais aborder cette question. Vous serez très libre après, quand on discute, pendant la discussion avec le public, vous serez très libre de poser toutes les questions que vous voulez. Mais dans cette première partie, l'angle sous lequel j'aimerais aborder la discussion, c'est vraiment l'expérience personnelle des travailleurs et travailleuses du sexe. Pour ne pas compliquer le langage, Fabien m'a suggéré d'utiliser dès à présent l'abréviation TS. Donc les TS sont les travailleurs et travailleuses du sexe, on parlera de TS et ça sera plus simple. J'ai fait un peu une hypothèse de travail pour aborder ce dialogue en disant la prostitution, c'est d'abord une relation entre un prestataire de service et un client. Alors, les prestataires de services, on en connaît tous, les plombiers, les informaticiens, les médecins, et vous savez qu'il y en a des bons et des mauvais, parfois ils sont adéquats parce qu'ils ne sont pas. Les clients, peut-être un peu moins l'habitude, mais ceux qui ont déjà eu affaire à des clients savent qu'il y a des clients plus ou moins agréables, certains sont pénibles, d'autres sont très courtois, etc. Donc, la relation, si on prend la variété de côté, ça laisse une grande variabilité des relations possibles entre le TS qui offre un service et son client. Alors, peut-être une première question que j'aimerais aborder avec vous trois, c'est comment s'établit la relation entre un client et un TS ? Dans notre imaginaire, comment on s'imagine que le client il fait un peu le tour des prostituées qu'il voit dans la rue et puis il choisit celle qui lui plaît le plus. Apparemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Peut-être Angelina, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe.
Alors, voilà, vous m'attendez. Alors déjà, merci pour être aussi nombreux, on ne s'attendait pas autant de monde. Je ne m'attendais pas autant de monde, mais merci beaucoup pour l'intéressement. Et mon français n'est pas parfait, ce n'est pas ma langue maternelle, s'il y a des erreurs, il faut me dire. Parce que... Alors, effectivement, ce n'est pas le client qui choisit la prostituée, c'est la prostituée qui choisit d'aller avec le client. Alors, dans l'imaginaire, c'est le mec qui paye, puis viens avec moi, tiens, je te paye. Non, c'est pas comme ça. C'est nous qui décidons si on y va ou on n'y va pas. Alors, c'est une question de stand, d'expérience. Et ça passe pas automatiquement. C'est pas parce que vous avez l'argent que vous avez le droit à coucher avec n'importe qui. C'est que la fille, elle doit accepter. C'est un contrat tacite entre deux personnes. Entre le prestataire, la personne qui donne le service, la prestation sexuelle, et le client. Et le client, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec son argent, ça c'est aussi dans l'imaginaire. Et il y a certaines, beaucoup de choses que nous, on n'accepte pas. Et chaque prostituée, il a ses propres limites. Alors, disons, il y a quelqu'un qui peut accepter le sadomaso, d'autres, il ne peut pas, parce que ce n'est pas dans sa personnalité, elle n'aime pas ça, et elle a le droit à dire non. C'est quand on perd ce choix de dire non, qu'on parle de traite d'êtres humains. Et donc, vous pouvez dire que vous pouvez choisir, que vous pouvez établir votre limite, que vous pouvez donner la prestation que vous avez envie de donner. Là, on parle de liberté et de travail indépendant. Qu'est-ce que c'est un travail? Moi, j'aimerais bien venir à ce concept de travail. Travail, c'est une activité lucrative avec un horaire, avec une rémunération et avec des limites. Et vous mettez en place votre expérience, vous mettez en place votre savoir-faire. Et ça, c'est ce que nous, on fait. Il y a certains gens qui travaillent avec les mains, des autres avec le cerveau, des autres avec les pieds, des autres avec plusieurs parties du corps. Nous, on travaille avec une autre. C'est tout. C'est ça qui pose problème à beaucoup de gens. Et je trouve ça très hypocrite, parce qu'on vient tous de là. Hein. Je vous rappelle que si le sexe n'existait pas, nous non plus. Alors, voilà, pour vous répondre à votre question.
Comment tu fais pour choisir le client? C'est une question de sympathie, de feeling?
C'est une question beaucoup distante. Stante, expérience.
Expérience,
oui. Instinct. Oui, pour votre expérience, vous devez écouter votre instinct d'abord, et votre expérience, elle vous dit si vous êtes capable ou pas de gérer la situation.
Et qu'est-ce que tu lui dis s'il ne te plaît pas si tu...
Comment?
Qu'est-ce que tu lui dis si tu ne veux pas
Ah, on est des êtres très diplomatiques, hein. On attend toujours quelqu'un d'autre.
Judith, toi, tu as une expérience particulière avec les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées dans les EMS. comment ça se passe là? On fait appel à toi et puis tu es obligé d'offrir ce service à ce client ou tu peux aussi choisir?
On peut toujours choisir, sinon on n'avait pas choisi ce travail-là. C'est aussi pour la liberté de choisir entre autres les clients, si on a le luxe. Mais maintenant, avec les clients en situation de handicap ou les personnes âgées, ça se passe encore un peu plus compliquément, comment dire, parce qu'ils passent vers une association, vers un éducateur, vers les parents. Donc il y a toujours des intermédiaires. Moi, je fais un rendez-vous préalable où je peux après vraiment dire que moi, je me sens capable de le faire ou pas. Il y a un courant qui passe ou pas, et la personne aussi. Donc, c'est comme ça que le contact se fait.
D'accord. Est-ce que c'est différent entre hommes, Eric?
Alors, assez, oui. Je pense, enfin, c'est pas si différent que ça entre hommes. Hein. C'est juste que les rapports sexuels entre hommes et pas forcément homosexuels, parce qu'on en parlait tout à l'heure, où on n'est pas forcément en relation avec des gens qui se déterminent comme gays. C'est bien la recherche de des fouages simplement du corps, du miroir du corps. Je pense que c'est, pour moi, dans la rue en tout cas, c'est cette errance, et pour moi dans les lieux de sexe aussi, alors je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais C'est le fait que ça tourne comme ça, et c'est effectivement le fait qu'à un moment donné on s'observe, et c'est un contexte qui se déploie comme ça et qui se développe peut-être dans la tête de la personne et qui tout d'un coup, hop, crée le contact. Et c'est en fait à ce moment-là que la discussion se fait, et puis la négociation pour la prestation se fait.
Ça t'est arrivé de refuser un client?
Ouais, bien sûr. Juste parce que enfin, j'ai multiplié l'exemple là du coup, mais soit parce que le prix, soit parce que la manière, les prestations ne conviennent pas, soit parce que la manière d'aborder, de m'aborder ne convient pas, ou ça c'est multiple.
Quelles sont les attentes des clients? Enfin, je pense que dans l'imaginaire de tout le monde, on s'imagine que le client il cherche juste un rapport sexuel rapide, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Je sais pas qui veut commencer.
Angelina.
Alors, chez nous, on dit entre le dire et le faire, il y a toujours la mère. Alors, la mère. Parce que entre le fantasme de les hommes et ce qu'ils font dans la réalité, dans le lit, ça passe énormément de choses et ça peut passer vraiment rien de tout aussi. Alors, c'est aussi dans la vie des couples, c'est la même chose. On a des fantasmes dans la tête qu'on n'arrive pas à réaliser forcément, on n'ose pas réaliser. Et avec les prostituées, c'est la même chose. Les hommes, ils pensent qu'on est des professionnels des films porno, alors qu'on fait toutes les positions, qu'on est le Kama Sutra per corps, et on fait des sorts de l'armoire, je ne sais pas quoi. En réalité, quand elle arrive là, il y a une chose particulière qui se passe toujours, c'est que dès que vous arrivez à la porte de ma chambre, vous laissez votre rôle social dehors. Alors moi, je m'en fous si vous êtes le président de la République, si vous êtes consulat, je ne sais pas quoi, vous êtes un homme tout nu dans mon lit. Et là, il faut assumer. Normal. Alors, par rapport à ce que les hommes, ils s'attendent qu'on soit quand même compréhensif. Parce que l'humanité en soi, il a des faiblesses. Il y a des faiblesses que certaines femmes n'acceptent pas. Chez nous, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas jugé. Vous êtes un homme tout nu, simplement. Nous, on ne juge pas. Il y a certaines choses, bien sûr, qu'on n'accepte pas, mais ça va de chacun. Mais vous sentez libre de faire ce que vous voulez. Je vous passe la parole à Eric. Mm-hmm.
Et là, c'est là que...
Là, c'est là que tu expliques.
Juste, redis-moi précisément.
Les fantasmes. Quelles sont les attentes
des attentes,
clients.
Les fantasmes. Et, pour moi, c'est pareil. C'est dans cette errance. Enfin, pour moi, on en discutait encore tout à l'heure, c'est le processus qui se crée quand on va chercher du sexe.
Et je crois que je dois être très impressionnant. Peut-être tu peux raconter et expliquer un peu cette situation avec les voitures qui tournent.
Ouais, parce que pour moi, c'est le contexte en fait le contexte du travail. Et pareil pour le client qui va chercher à s'exciter et à fantasmer et à créer le truc qui va faire qu'à un moment donné, il va être prêt à payer pour bénéficier de cette prestation. Et c'est tout un processus quand même. Alors moi, c'est vrai que j'ai principalement travaillé dans la rue, uniquement, et des fois en voiture et des fois moi, chez les gens. Et c'est encore pas pareil, les attentes et les fantasmes, hein, parce que ça va pas du tout être la même relation si on fait une prestation dans une voiture, dans une ruelle, ou si jamais on va chez quelqu'un, ou si jamais on va au restaurant, on va chez quelqu'un, et voilà. Donc les attentes, elles vont être variées. Par contre, il y a toujours cette histoire du processus qui se crée, qui fait que, moi je disais, c'est le souvenir, le meilleur souvenir que j'ai, c'est effectivement d'être sur la place de travail et de voir ces voitures passer. Moi, j'ai commencé à Lyon sur les quais, et c'était une 4 voies, et du coup, c'est des centaines de voitures qui passent, et il y a des regards qui se créent, il y a des regards qui choquent comme ça à des moments donnés, et puis il revient, et puis il fait son tour, et puis après, on se met un peu à l'écart, parce qu'on voit bien que si jamais on est en groupe et qu'on discute, il va pas venir, et puis à un moment donné, hop, voilà, ça se fait. Et du coup, l'attente, elle peut être très variée, c'est vrai qu'elle va être principalement portée sur l'excitation sexuelle, en tout cas, ça c'est assurément. Après, sur est-ce que ça va être une prestation très rapide avec une jouissance rapide aussi, ou au contraire quelqu'un qui va vouloir un déroulé. Là où je rejoins dans le gymnase, c'est qu'effectivement tout d'un coup c'est un espace d'intimité qui se crée, intimité partagée, même si elle est tarifée. Et cette intimité là, elle tombe plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement là on se voit, on est habillé, on discute. Tout d'un coup, si on se retrouve nu dans une pièce ou dans un cadre, on va être complètement différent. Bah, c'est ça qu'on vit à peu près, je pense, dans notre quotidien de travail. C'est ce changement-là.
Et tu disais que les hommes qui cherchent un prostitué homme ne sont pas forcément homosexuels. Ça peut aussi être un fantasme.
Alors après, ça dépend des contextes. Par exemple, moi, j'ai pas eu du tout une majorité de gays dans ma clientèle, par exemple. Et du coup, les demandes sont pas les mêmes avec des gens qui sont gays, qui s'identifient comme gays, on va dire, et des hommes qui veulent juste une rencontre avec un homme. Parce que ça va pas être vécu pareil. Dans la manière dont on parlait chez les garçons, nous on fait les clients, on appelle on michetonne, on dit, et c'est des fois plus que ça va loin, c'est-à-dire qu'on passe vraiment des soirées, des machins, et on peut avoir des cadeaux et on peut partir en voyage et tout ça, parce qu'en fait on crée une relation. Ça, c'est clairement des clients plutôt gays qui vont être dans ce processus-là. Les hommes, on va dire, qui ne se déterminent pas comme tels, ils ne vont pas forcément avoir besoin de ça et être bien plus dans le corps à corps et dans cette sexualité, on va dire, nette, plutôt que tout contexte autour.
Les attentes des clients.
Ben, les attentes des clients, c'est aussi, c'est beaucoup ce que Angelina a aussi dit, c'est le non-jugement, c'est de pouvoir être soi-même pendant un moment, de vraiment baisser les pantalons, d'être soi-même, pas être jugé, aussi de pouvoir exprimer tous ces fantasmes qui semblent peut-être aberrants parce que jugés par d'autres, de retrouver une virilité qu'on pense avoir perdue peut-être à cause de l'âge, à cause de la maladie, de redécouvrir son corps de là avec cette clientèle maintenant vraiment spécifique, aussi de réapprendre de aimer son corps, d'être bien avec son corps même s'il ne correspond pas à des normes courantes. Et je pense que c'est vraiment aussi ça, c'est aussi l'excitation de dépasser une limite quand même, de transgresser quelque chose. Ça, c'est toujours dans le travail du sexe quand même, il faut un peu de piment, de interdit presque, de au moins moralement interdit. Je pense que ça aide à l'excitation.
Et quelle est la part des clients qui cherchent avant tout le contact humain, avant le sexe?
Mais tous les clients, cherchent un contact humain. Mais le sexe est un contact humain. On ne peut pas dire le sexe est juste le sexe, et c'est mon sexe. Le sexe est tout le monde, tout le temps, si on le fait à deux, non, ou à plusieurs, ben c'est un contact. On ne peut pas séparer le sexe du contact humain, comme on ne peut pas le séparer vraiment complètement du sentiment. Parce que si il n'a pas un petit sentiment, une excitation, une attraction, pour moi, ça va pas marcher.
Si vous voulez dire, tout seul aussi, c'est un contact humain. Hein. Quand on fait des sexes tout seul, c'est aussi un contact humain. Hein.
Oui. T'es humaine.
Je vais revenir un peu en arrière sur ce que j'ai dit en introduction. J'ai dit c'est un rapport entre un fournisseur un prestataire de service et un client, mais ce qui rend peut-être ce qui est quelque chose d'assez courant finalement, on a ça quand on va acheter du pain chez le boulanger, mais ce qui rend peut-être cette relation là scandaleuse, c'est qu'en même temps c'est une relation intime. Je pense forcément comment vous vivez ça, comment vous vivez l'intimité dans les...
Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intime quand le dentiste vient à me percer les dents. Ça, c'est vraiment très intime. Ou le gynécologue vient à me faire un examen. Ça, c'est vraiment l'intimité totale. Alors, être bien avec son corps, ça permet de mettre à l'aise les autres avec son corps même et avec ses propres fantasmes. Un fantasme érotique, ça naît dans la tête. Le cerveau, c'est le plus grand organe sexuel qu'on a. Parce que si ça ne marche pas là, en bas, c'est mort. C'est normal, si vous avez une imagination, vous pouvez même jouer tout seul, parce que vous avez une imagination, le cerveau, il vous fait sentir des choses, il vous fait vivre. Si après vous partagez sa intimité avec des autres qui sont dans la même longueur d'onde, ça va super nickel. Ça ne veut pas dire que nous, on est des professionnels. On sait dans quelle longueur d'onde le client est, alors on peut le suivre. Mais pas toutes les femmes, ils sont disposées. La plupart des femmes, certaines femmes que je connais, ils n'ont pas envie de faire du sexe. Ou ils ont envie de faire du sexe quand ils veulent. Deux fois par mois, quand ils n'ont pas la mal à la tête, quand ils n'ont pas les enfants là, quand il y a ça, il y a là. Alors forcément, un homme, il a besoin de beaucoup plus, biologiquement, il a besoin de beaucoup plus de sexe qu'une femme. Soit disons, dans la théorie.
Je suis tout à fait d'accord.
Ça dépend de la femme.
Moi, je pense quand même que les femmes qui n'ont plus envie de sexe, c'est parce qu'elles ont fait des mauvaises expériences, c'est parce que le sexe qu'elles ont eu, c'était tellement ennuyant qu'elles se disent, mais non, mais voilà. Si elles ont des bonnes expériences, mais je te jure, elles aiment.
Ouais, je sais. Ou le sexe est vu aussi dans une éducation très religieuse, le sexe est aussi vu comme une obligation conjugale. Et là, tu te coupes complètement ta sexualité, mais tu es marié, l'homme a besoin. Chez l'homme, le sexe, c'est la deuxième chose la plus dure le matin. La première, c'est se réveiller. Après, c'est le sexe. C'est automatique. Alors, si les femmes n'ont pas toujours envie, les hommes recourent à les professionnels, et ça ne veut pas dire que ce soit une trahison, forcément. Au contraire, c'est une façon de respecter les espaces de la femme qu'elle est mariée avec. Je parle pour les femmes mariées. C'est une façon de... pas trop les embêter, disons.
Oui, parfois c'est aussi un manque de communication, qu'ils n'osent pas communiquer avec leur femme, donc qu'ils disent que mais ma femme ne veut jamais, et je dis mais alors tu fais quoi avec elle? Peut-être c'est pas ça la raison, peut-être tu changes un peu de où tu la demandes, qu'est-ce qu'elle aime, et puis ça pourrait changer. Ouais, parfois c'est complexe.
Alors, peut-être Angelina, juste une petite. Angelina, si tu peux juste raconter cette histoire d'une discussion avec, c'était avec les femmes socialistes.
Hein. Ça vous a plu, hein?
Ah oui, ça m'a plu, oui, tu peux juste dire ça.
Alors, moi, j'étais invitée comme président du syndicat, j'étais invitée pour les femmes socialistes de Suisse à Berne, à un congrès qu'ils ont fait, les femmes socialistes, pour voir s'ils étaient pour ou contre la prostitution. Alors finalement, il avait déjà son point de vue assez pointu, mais non invité juste pour dire qu'il m'avait invité, mais on n'a pas écouté du tout ce que je disais. Et finalement, ils ont décidé qu'ils sont contre la prostitution. D'une des raisons, c'est parce qu'il entame l'institution du mariage. Je lui ai dit, excusez-moi, mais nous, peut-être, on a sauvé beaucoup de mariages, peut-être même le vôtre. Alors, je ne pense pas que c'est ça la raison. Alors, elle était un peu comme ça. Voilà.
Éric, tu voulais.
C'est vrai que moi je suis pas un spécialiste de la sexualité des femmes, donc je vais avoir du mal à me positionner là-dessus. Par contre, ce que je pense quand même, c'est que la sexualité, c'est quand même effectivement avant tout un espace de liberté, quand même aussi, et d'expérimentation. Et qu'à un moment donné, alors peut-être hein, qu'on nous transmet beaucoup de codes et qu'on nous transmet tout ça, mais. Alors moi, c'est là où moi j'ai été bercé dans les années SIDA, et donc avec toutes les histoires de safe for sex et tout. Et à l'époque, on nous parlait de découvrir la sexualité à travers des pratiques sans risque. Et donc, on parlait plutôt de sensualité, on parlait plutôt de. Alors moi, j'ai fait beaucoup de danse contact, et on peut partir comme ça dans des histoires. Et c'est vrai que c'est pas uniquement clitoridien ou au niveau du pénis, quoi. Pour moi, ça peut être. Simplement, enfin voilà, plein de sensations comme ça qui chevauchent et qui font qu'à un moment donné, ça part. Et du coup, voilà, ce que je pense que c'est pas toujours simple, effectivement, dans les rapports en couple, mais c'est pareil, c'est pas ma spécialité, le couple. Donc, quelle longueur, quelle distance on peut tenir en mettant, effectivement, et je parle pas de piment uniquement, je parle bien de sens, de sensation, hein. C'est peut-être là la différence avec moi, avec ce que je vois aujourd'hui, où effectivement des sextoys sont partout, il faut toujours des gadgets, il faut toujours des machins. Enfin, moi j'aurais tendance à penser que je suis encore un vieux de la vieille qui vit deux corps ensemble, ils peuvent faire des choses de dingue et sans, voilà, sans artifice, on va dire. Voilà.
Là, on parle des couples du pignon, est-ce qu'on peut aussi parler de vos couples? Enfin, peut-être, juste, Eric, tu as dit que tu étais un célibataire endurci, c'est ça?
Oui, je crois que
mais
c'est
tu as laissé quand même la possibilité ouverte, est-ce que tu veux dire un mot?
Je?
Tu as laissé la possibilité ouverte d'un jour te mettre en couple?
Oui, je pense que ça fait son chemin. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même 43 ans, donc voilà, la vie, elle change. Ma vie, elle est quand même beaucoup plus calme. Mes appétits sont aussi plus calmes, je pense. Mes appétits de liberté aussi, de rencontre, et éventuellement. Mais alors, on parlait de ça, mais on a dit aussi que ça m'était par rapport à la sexualité et l'intime. Hein, sur moi, mon intimité et ma sexualité. Ce qui paraît qu'il y a un argument maintenant qui dit que ça peut être dommageable, ce travail-là sur l'intimité et la sexualité. Non, je pense, est-ce que ça met la barre haute ou pas? En tout cas, ça... Ça fait que cet espace, si la sexualité c'est uniquement, alors, je vais être un peu cash, c'est piné, franchement c'est pas très sexy pour moi. Voilà. Et si il y a peu de chances que je m'en trouve en couple avec quelqu'un qui attend ça du partenaire, voilà, il va me falloir autre chose. Ouais. Mais oui, un jour peut-être, qui dit.
Judith, tu vis en couple?
Moi, je vis en couple et quand j'ai travaillé dans les salons de massage, j'étais mariée. Mais moi, je n'avais pas une conception de la sexualité comme je ne possède pas le corps de l'autre. Je partage les sensations, donc c'est sûr aussi pour moi, c'est complètement différent si je fais l'amour avec quelqu'un dont je suis amoureuse. C'est sûr, ça c'est ça c'est le pied, mais je peux aussi jouir avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureux. Donc moi, j'ai déjà fait des expériences de partout, on dit, je pense, avec mon ex-mari. Donc on avait une autre relation. C'est pas une tromperie, c'est pas non plus quelque chose qui met en concurrence maintenant, ou qui pourrait mettre en danger notre relation qui est autant plus que seulement le sexe. Ça c'est une facette qu'on peut aussi partager parfois.
Est-ce qu'il t'est arrivé de tomber amoureuse d'un client?
Non. Non, pas au point que, voilà, que j'aurais fait suite. Ça m'arrive d'avoir peut-être des doutes et de aimer quelques clients ou clientes plus que des autres. Mais comme j'étais toujours dans une relation, ça ne m'est pas tellement arrivé.
Oui, j'ai déjà tombé amoureuse de deux clients, je les ai même mariés après j'ai arrêté. C'est pas bon pour les affaires. Pour répondre à ta question avant que tu la fasses.
Et les clients qui tombent amoureux de vous?
Ça, c'est plus souvent.
Et comment on gère ça?
Bah, il faut poser des limites parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un travail. Après qu'on a fini, c'est un travail, on peut devenir des amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont de mes clients, qui partagent des intérêts communs. Ma vie privée, ça m'appartient. Alors, une fois que le travail c'est fini, moi, je passe à autre et je n'ai pas que ça dans la tête. Et c'est pas évident parce que dans l'imaginaire des hommes, une fois qu'ils ont couché avec une femme, ça y est, ça vous appartient, c'est pour toute la vie, on va, oui, c'est quand je veux. Alors, donc, c'est pas comme ça. La plupart des hommes, ils sont pas habitués à avoir une femme très libre. Quand elle a la liberté d'avoir ses normes, écoutez, moi je veux pas de relation amoureuse, c'était juste pour la prestation, c'est bon. Ah bon, non, mais comme, tu me trouves pas beau, et je suis pas assez riche, non, c'est pas ça, c'est que c'est bon, c'est là. L'argent ne l'achète pas tout.
Eric, tu ne fais plus ce travail du sexe régulièrement, mais tu dis que tu as gardé des contacts avec d'anciens clients.
Moi, j'ai encore gardé des clients que je connais depuis plus de 20 ans maintenant. On en parlait, c'est. Et moi, j'ai toujours une manière très carrée de faire, c'est des espaces-temps limités, aussi dans mon existence. Voilà, je travaillais un certain temps dans le mois, et j'étais disponible pour ce certain temps-là.
Même quand il a le micro, il parle pas fort.
David, tu peux peut-être mettre le micro un peu plus haut. Levez un peu le
bras. Sinon, je ne peux pas le plus fort.
Eh ben, c'est...
Il n'utilise pas le micro.
Ah non,
Moi, je dis, c'est ça.
Non, je pense que c'est ça. Ne la balle pas.
Ok, c'est bon, ça va. Alors, j'en étais à...
Aux amis.
L'espace-temps. En fait, l'espace-temps, c'était carré pour moi. Moi, j'ai une vie. Et puis j'avais mon travail, et puis ce travail il me permettait de faire plein de choses dans ma vie. Mais ça ne pouvait pas déborder, et du coup c'était quelque chose qui était assez carré comme ça. J'avais une ligne de téléphone spécifique, enfin voilà, et j'avais ce temps-là. Ce qui fait qu'en fait, dans la durée, ouais, j'ai quelques personnes que je vois depuis certains, depuis 20 ans maintenant. Et c'est des chouettes relations, parce qu'en fait c'est très simple, hein, on se connaît par cœur à peu près. Mais en même temps, c'est toujours à chaque fois nouveau. Et encore maintenant, on arrive encore à trouver voilà, ce truc qui fait qu'il a envie de me voir la prochaine fois. Et je trouve ça plutôt joli. C'est des gens qui vieillissent. C'est des relations qui me touchent. C'est des choses qui sont jolies, enfin, à vivre. Voilà. Et à accompagner aussi, parce que je parlais d'un, en l'occurrence, qui est maintenant très senior, on va dire. Hein. Et avec qui je trouve que c'est une chouette, c'est une très belle relation. Je remonte.
Et en fait,
je
baisse tout seul. C'est, c'est bon
ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. J'ai un bord de tête incroyable. voilà.
Oui, donc, tu disais que c'est quelqu'un qui t'avait beaucoup apporté dans ta vie. En fait.
Oui, bah, c'est quelqu'un qui a largement participé à ce que je puisse faire tout ce que j'ai pu accomplir aussi. Tout concrètement, là, matériellement aussi. Et ça, c'est aussi en termes de reconnaissance. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de... C'était net, c'était clair. Je ne me suis jamais senti redevable non plus. J'ai toujours fait ma part. Et c'est vrai qu'il a été généreux, et tant mieux. Ça m'a apporté beaucoup. Mais il n'y a jamais eu de marchandage ou négociation. Et c'est là où je pense que dans une relation, pour qu'elle soit saine, c'est ça, c'est j'offre un espace, et ben voilà, je t'offre cet espace, et satisfais-toi de cet espace-là, et essaye pas de gagner l'espace d'après, enfin, voilà, c'est tout.
Eric, tu as dit quelque chose qui m'avait frappé. Tu as dit j'aime les corps.
Moi j'aime les corps. Ouais.
Tu travailles sur ton propre corps dans la danse et puis tu aimes les corps des autres.
J'ai travaillé avec d'autres corps. J'ai aussi travaillé en lien avec d'autres corps. Et maintenant encore j'ai une pratique entre deux shiatsu. Pour moi c'est juste magnifique ce qui peut se passer entre simplement un toucher. Et c'est vrai que c'est là où on est très loin de la prestation sexuelle à ce niveau-là, hein, mais simplement ça et ce mouvement des tissus tout d'un coup qui se crée et qui fait qu'à un moment donné on peut aller ailleurs. Et en fait ce que j'aime moi c'est la transformation. On part d'un truc a priori comme ça, d'un simple contact, et on peut aller loin. Et alors là, à travers le travail corporel, ben, ceux qui connaissent un peu ou qui ont expérimenté ça, on peut aller très loin. Ça peut être simplement juste toucher un mur et s'appuyer dessus, donner du poids. Enfin, voilà, on peut s'amuser, quoi, avec. Et par contre, c'est faire ses appuis, ses projections, savoir où est mon centre, revenir. Et c'est toute cette histoire-là que... Oui, ça peut... Mais ça peut être une discussion, si je parle là-dedans.
Mais je crois que Julina, tu disais la même chose, hein. Tu dis aussi que tu aimes les corps. Tu aimes les corps.
Oui, surtout le mien.
Surtout le tien.
C'est pas modeste. Non, j'aime surtout mon métier. J'ai toujours pensé que quand on aime ce qu'on fait, on le fait mieux. C'est pas la même chose aller chez un médecin qui déteste son travail. On parle toujours d'un dentiste, je ne sais pas pourquoi. C'est pas la même chose d'aller chez un dentiste qui déteste son travail qu'aller chez un dentiste qui aime bien son travail. La même chose que les prostituées. Moi, j'adore mon métier. Une des choses que j'adore de mon métier, c'est la liberté. La liberté de choisir avec qui, comme et quand. Et la liberté de se gérer soi-même. Vous gérez tout vous-même. Vous gérez votre poste de travail, vous gérez vos économies, vous gérez votre vie. La plupart des prostituées, c'est des chefs de famille. Alors on gère tout dans la famille, on gère l'éducation des enfants, on gère énormément de choses. Sa liberté, c'est pas facile à gérer, il faut apprendre à la gérer, surtout quand on vient des milieux qui c'est pas facile, et il faut l'apprendre à gérer, c'est tout un processus, c'est tout une évolution, mais il y a énormément de choses que j'adore de mon travail. Dans l'expérience d'assistance sexuelle pour personnes handicapées, j'ai une expérience à partager avec vous qui m'a énormément touchée. C'est quelqu'un qui était dans l'institution ESIT, qui c'est pour la euthanasie. Et cette personne, elle avait décidé après 10 ans de mourir parce qu'elle en avait marre, elle était très malade, elle ne pouvait plus, son corps ne pouvait plus, son âme ne pouvait plus. Mais elle voulait voir une femme nue après 10 ans. Elle voulait voir une femme toute nue et puis pouvoir la caresser. Alors je suis allée, j'étais appelée pour ça. Je suis allée et je m'ai mis tout nu. Elle était complète admiration. Elle était époustouflée, elle était émerveillée. Et puis elle me disait, vous allez être le dernier souvenir que je vais avoir sur cette terre-là. Et moi, ça m'a tué. Voilà. Je suis sortie de là avec les yeux tout chocolatés, brillants, comme ça. Et c'était, je sais pas, quelqu'un que je pouvais lui dire au revoir, non, je devais lui dire adieu, parce qu'après moi, elle allait mourir. C'était son dernier désir, c'était ça. Et moi, je me suis sentie vraiment très honorée de ça. C'est une expérience que je ne pense pas qu'une autre personne l'aurait été. Je ne vois pas bien les infirmières à faire ça, je ne vois pas les Croix-Rouges à faire ça, ni les médecins, ni les bosseurs non plus. Alors, je pense que seulement une prostituée pourrait apprécier le moment et apprécier la beauté du moment. Et c'est des choses comme ça que j'aime dans mon métier, pouvoir aider, pouvoir être là, pouvoir m'habiller énormément. La plupart des gens, ils pensent que la prostituée, c'est qu'ouvrir les jambes. Ça, c'est la dernière des choses qu'on fait. Il y a d'abord l'accueil, il y a l'aspect psychothérapeute, il y a l'aspect de la liberté, comme je disais, l'aspect de la séduction, que pour nous, les femmes, c'est terrible. Ça me rappelle que j'étais l'autre fois dans une boutique d'un client qui m'a dit « Bah, je vais t'offrir un manteau, choisis. » Et puis j'ai choisi le manteau plus scandaleux qu'il pouvait avoir, avec des fourrures bleues électriques. Et puis la serveuse, la femme de la boutique me dit « Ah, mais il va être peut-être trop indiscret, c'est peut-être trop lumineux. » Et je lui dis « Chérie, je suis tout le temps, je ne peux pas me le permettre. » Alors, j'ai pas besoin de rassembler une autre chose que je ne suis pas. Alors,
qui reparle.
Ça va très bien, c'est ça que je ne vous inquiète pas. Alors, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes qui n'osent pas se mettre en mousse parce qu'ils vont être confondues avec une pute. Alors, moi, par exemple, dans la Lake Parade, je ne vais plus. Parce qu'à la Lake Parade, il y a toutes les filles qui s'habillent en pute. Sincèrement, oui. J'habite vraiment que moi-même, je n'oserais pas sortir comme ça dans la rue. Alors, je me suis dit, cette année, je vais aller habiller en sort de la charité, comme ça, peut-être, avec les talons rouges, pardon, hein, avec les talons rouges. Parce que les femmes, elles n'ont pas confiance en son corps. Elles pensent qu'être sexy veut dire être vulgaire. Et c'est pas la même chose, une prostituée n'est jamais vulgaire, une vraie prostituée n'est jamais vulgaire. Moi, je peux être habillée juste ici et on voit rien de ma peau et être sexy comme tout. C'est une question de se sentir sexy. C'est ça la différence.
Je connais que c'est bien.
Tu aimes les corps, tu aimes ton métier.
Oui, j'aime mon métier, sinon je pense pas que je pourrais le faire parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement aussi. Alors, moi, j'aime les toucher, j'aime être touchée, j'aime cette relation à la vie et à la mort, parce que la sexualité, c'est la vie même, et c'est à la limite de la vie et la mort, donc moi, j'aime bien cette tension-là. Je trouve c'est excitant. Moi, j'ai beaucoup appris sur mon corps aussi, parce que ben voilà, si je faisais pas ce métier, j'aurais peut-être pas eu, je sais pas, plusieurs centaines de rapports. Donc c'est normal que je serais pas, j'aurais pas été touchée par autant de mains et j'aurais pas fait les mêmes expériences. Donc j'ai appris sur mon corps aussi, pas que je ne savais pas déjà, mais moi je me suis mariée à 20 ans, donc j'avais le même mari de longtemps, j'avais peut-être pas autant de contacts. J'ai appris beaucoup. J'ai pu aussi après transmettre cette expérience à d'autres. Donc moi je trouve que c'est une école de vie qui m'est très très précieuse. Le seul problème, c'est la stigmatisation. C'est pour ça que j'avais arrêté à un bon moment. J'ai des enfants, je ne voulais pas qu'elles souffrent de ça. Mais ce n'est pas parce que je n'aimais pas ou j'avais de la peine avec mon métier. J'avais de la peine avec le statut social de mon métier. J'avais de la peine avec la dénomination pute. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand moi, je parle de pute avec Angelina, c'est tendre. Mais si d'autres utilisent ce mot, c'est pas du tout tendre, donc je voulais pas imposer ça à mes filles. Je suis retournée dans le travail du sexe par les clients maintenant très très spécifiques, mais en fait pour les mêmes raisons, parce que c'est une liberté aussi, c'est la liberté de faire avec mon corps ce qui me plaît. Et de pouvoir partager ça, parce que je vois que d'autres gens ont des problèmes de pouvoir exprimer avec leur corps, et que je peux aider là, et que je peux partager ça.
Sur la stigmatisation, tu peux juste raconter l'anecdote du sac à main.
Oui, parce que c'était si j'arrive dans un salon de massage, non, ça m'est arrivé quand même qu'après un service, ben, on regarde si j'ai piqué quelque chose, ou aussi au début, quand je suis arrivée dans une institution, on n'était pas sûr. Donc on pense déjà, voilà, de pute, c'est aussi voleuse, voilà, ce qui est vraiment pas du tout le cas. Alors moi, j'ai vu beaucoup plus de clients qui ont volé des choses dans les salons de massage que l'inverse.
Et tu disais, c'est depuis que tu es diplômé qu'on ne regarde plus dans ton sac, qu'on ne contrôle plus ton sac à main.
Oui, c'est depuis formation d'assistante sexuelle, donc qu'on voulait quand même un peu séparer ça. Travail du sexe, pas la même chose comme assistante sexuelle. Moi, j'ai toujours dit l'assistante sexuelle est un travail du sexe, mais voilà, spécialisé. Mais depuis que je suis assistante sexuelle, donc formée, ben, on n'en doute pas. Donc j'ai changé du statut de pute, statut de ange. C'est incroyable, en faisant la même chose.
Eric et Angelina ont beaucoup insisté sur la liberté qu'elles ressentent dans ce métier. Judith, je crois qu'il y a quand même une expérience un tout petit peu plus nuancée par ton expérience de travailler en salon.
Bon, en salon, le travail est différent que sur la rue. Déjà, il est moins libre parce qu'on a des horaires. C'est quand même un travail presque comme employé, sans tous les avantages d'un employé. Donc, on n'a pas un deuxième pilier, on n'a pas des vacances payées, on n'a pas une maladie payée. Mais sinon, on a des horaires, on a un pourcentage qu'il faut donner au plus au propriétaire du salon, donc c'est pas du tout c'est beaucoup moins un travail libre. Ce qui était la liberté pour moi dans ce travail là c'est que je travaillais que 6 mois par an, que dans les autres 6 mois ben, je fais ce qui me plaît.
Donc la question de qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier, ou qu'est-ce qui vous prédisposait à ce métier? On a déjà entendu un rapport particulier au corps. Angélien disait tu aimes ton propre corps.
Ça gardé dans la glace tout de suite.
C'est pour vocation.
Par vocation. Vocation.
Mais écoute, on ne peut pas être tous boulangers, non? Il va bien falloir que quelqu'un fait mon métier, non?
Mais tu disais aussi qu'il fallait être très sûr de soi, c'est ça?
Mais disons que le travail de sexe donne la sécurité sur soi, parce que c'est finalement vous qui commandez la situation, c'est vous qui gérez la situation, c'est vous qui gérez votre vie, votre économie, votre liberté, c'est vous. Vous ne pouvez pas. Dans les salons, ça passe ça. Il y a quelqu'un qui pense à votre place, qui choisit pour vous. Ça, ce n'est pas vraiment la liberté. Mais dans la rue, vous êtes libre. Mais vous êtes aussi. Il faut être discipliné. Quand on est libre, ce n'est pas qu'on fait la joie tous les jours. Non, on s'appelle vite des joies, mais on est très discipliné. Et il faut avoir des horaires spécifiques, il faut faire des économies, et il faut maintenir son corps. Mais ça donne une sécurité en soi-même, et en son corps, en sa vie, en les projets qu'on fait. Et on peut développer plein de choses à côté. Ça donne vraiment de la force. Moi, les personnes plus courageuses que j'ai jamais connues, c'est des femmes prostituées. Une fois, comme je vous ai raconté, on était invité pour l'ONU à une table, il y avait plein de secrétaires et tout, tous bien habillés, tatati, puis il y avait une femme qui maintenant il a 60 ans, il a fondé AMAR en Argentine, c'est une association de prostituées, et maintenant il a fondé la même association en toute Latinoamérique. Alors, elle était ici pour une conférence, on s'est rencontrés, on ne s'avait jamais vu, on s'est pris dans les bras, c'était trop chouette. Et puis, on était dans cette table avec plein de personnes, tous à l'autoloquet, et tatati, tatata. Et puis, je lui ai dit, mais écoute, ici dans cette table-là, il n'y a que toi et moi qui on est prostituées. Elle m'a dit, que c'est font payer, oui. Il n'y a que toi et moi. Elle a dit, ok, moi, c'est bien.
Peut-être juste une dernière question, après on peut passer aux questions-réponses avec la salle. Donc, vous battez un peu contre cette image de victime. Vous n'êtes pas des victimes.
Oui, ça c'est dans l'imaginaire collectif.
Mais est-ce que, quand vous regardez vos collègues à Genève ou ailleurs, est-ce qu'il y a des femmes qui font ce travail et qui sont des victimes?
Alors, il faut spécifier qu'en Suisse, le proxénétisme et la traite des êtres humains, elle est très combattue et elle est interdite. La loi, moi je travaille à Genève, la loi fait que nous à Genève on a instauré un réglementarisme qui fait que les femmes doivent s'écarter près de la brigade de mort pour pouvoir exercer le métier de prostituée. Alors ça fait que dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas écarté à la police, on peut la signaler, on peut voir dans quelle situation elle est, mais c'est vraiment très rare. De plus en plus maintenant qu'il y a à Lausanne, ils sont en train de chasser un peu les filles de la rue. Et ils viennent à Genève en pensant qu'il y a la place pour tout le monde. À Genève, c'est un marché vraiment très petit, beaucoup plus petit que Lausanne. Alors, forcément, ils ne trouvent pas de son endroit. Mais il y a des filles de l'Est. Ben, c'est vraiment des cas très spécifiques et très rares, même si on commence à voir un peu plus maintenant. Et le proxénétisme, il est interdit. Et à Genève, ça fait qu'on se connaît un peu tous. On sait plus ou moins d'où qu'ils viennent tous. Et on se protège en même temps. Et dans les sex men work, ça passe un peu aussi la même chose. C'est des garçons. Hein? c'est des garçons qui sont libres, mais ils n'ont pas un réseau spécifique. Ils sont plutôt dans le service indépendant.
Clairement, enfin...
Merci.
Alors, c'est vrai que moi, je la traite, c'est vendeur. Parce que c'est clairement un débat actuel. Hein. Et c'est vrai que l'appréhension, elle est énorme. Par rapport au fait que ça pourrait arriver jusque-là. Moi, à l'époque, j'avais connu en France, à l'époque où il y avait des Albanaises, je me souviens à Nice et à Lyon, ils avaient pu implanter comme ça 300 femmes, comme ça dans la rue du jour au lendemain, avec effectivement les soutenages. Je pense que c'est là où, alors, bon, maintenant, moi, je vais plutôt leur travailler comme, enfin, parler comme salarié, hein, dans un projet qui s'appelle Male Sex Work, où il y a des fois aussi, pour moi, c'est la présence et l'affirmation de ce que c'est que, alors on parle de faire sex work, hein, c'est quoi le travail du sexe et dans quelles conditions il doit être exercé, avec quel cadre, et comment on transmet aussi les bases à des gens, aujourd'hui principalement migrants, il est vrai, donc pas forcément avec les mêmes repères, pas forcément avec la même histoire, et on n'est plus, on parlait tout à l'heure de Brésil d'Israël par exemple, on est très loin aujourd'hui, effectivement, que des femmes comme Brésil-Israël soient la majorité des femmes qui travaillent aujourd'hui. C'est clairement des migrantes, c'est clairement des mères de famille principalement, et qui ont tous besoin de venir chercher de l'argent ici. Maintenant, à nous de transmettre des bases, à nous de donner des cadres. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que des jeunes, ils sont européens pour la plupart, et ils n'ont pas forcément les diplômes ni le droit de travail. Parce que c'est avec la différence avec les hommes et les femmes. C'est celle-là, c'est que historiquement, nous, les hommes, on a toujours... Moi, j'ai jamais été carté. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes qui sont cartés, encore moins dans la rue. Et du coup, en fait, c'est une opportunité pour eux, effectivement, de rentabilité financière. Et on est exigeant sur, effectivement... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Interpelle-toi là-dessus avant de te lancer et réfléchis. Et si à un moment donné, tu n'es pas à l'aise avec ça, il faut qu'il y ait des espaces aussi pour accueillir ces personnes. Et moi, ça marche. Enfin, nous, clairement, dans le travail de rue, on voit ça. Je pense que les gens sont preneurs de comprendre où ils peuvent se situer là-dedans. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est l'argent, en fait, aussi qui piège des fois. Et ce n'est pas que le travail du sexe, là, pour le coup.
C'est tout à fait réel. Vraiment, ça concerne pas seulement le travail du sexe. Pourquoi on travaille? On travaille quand même pour gagner de l'argent dans tous les métiers. Nous, et c'est probable, peut-être, si je pourrais vivre sans travailler, je travaillerais aussi. Alors, c'est toujours quand même une des contraintes, c'est de devoir payer son loyer et ses factures. Donc, c'était quand même l'entrée dans ce travail. C'était un besoin accru de l'argent et une facilité, entre guillemets, au début de l'avoir. C'est quand même un des motivations primaires au début. Et puis après, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire comme profession, comme avec les autres professions. Enfin, quelque chose qu'on sait bien faire, qu'on aime faire et qui ne nous donne pas trop de peine de le faire.
David, on lance la discussion avec le public.
Et Fabien, il va, non, mais tu vas nous rejoindre, Fabien. Tu viens avec nous pour la discussion avec le public.
Là, tu cèdes sa place.
Prends ta chaise.
Non.
Non, on va mettre une chaise. Non, on va prendre une chaise, on va rajouter une chaise. Voilà.
Alors, on ne va pas pouvoir distribuer les micros dans la salle, donc parlez bien fort. Et puis, si possible, posez des questions précises. Merci.
Moi, je suis en train d'écrire un manuel d'usage, hein? Manuel d'instruction. Non, mais c'est vrai. Mais à part ça, chacun il a son chemin à soi-même. Et ça n'existe pas la formule magique comme le CFC, comment ça s'appelle ça? Certificat fédéral de capacitation. Non, c'est pas ça. Non. Chacun il a son chemin, il a ses circonstances personnelles, alors on ne peut pas dire comment ça commence la prostitution, non, chacun il a son chemin propre.
Moi, je pense qu'il y a toujours un événement, ça peut être n'importe quoi, qui fait que quelqu'un a offert peut-être vraiment beaucoup d'argent pour un service qui n'était pas si dur à donner, et puis peut-être les circonstances font que là, à ce moment-là, tu avais vraiment aussi besoin de l'argent, tu vois, mais c'est possible, tu croyais pas que c'est possible, puisque voilà, ça se fait pas, comment ça se fait, que je me sens pas mal en fait, je sais pas, ça s'est bien passé, donc peut-être une expérience comme ça, qui fait que, voilà, je pense, j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de femmes et chacune avait une histoire hallucinante à elle. Alors, et chaque histoire était vraiment hallucinante et complètement différente. Donc, on ne peut pas dire. Il y a toujours un déclencheur, il y a un besoin d'argent aussi. Il y a quand même c'est des choses qui vont ensemble. Et puis, peut-être quand même un plaisir de séduire et de jouer avec ça.
Moi, je vais juste rajouter, moi, je pense qu'effectivement, la séduction, elle y fait partie, en grande partie. Oui. Il y a quand même ce jeu. Enfin, pourquoi, à un moment donné, qui peut se permettre de demander à un moment donné une somme pour avoir un truc? C'est tout un cheminement dans la tête. Et il faut déjà, pour moi, en tout cas, être à l'aise sur le fait de pouvoir le faire. Mais on peut déjà l'expérimenter dans sa sexualité propre, en fait. Ah, mon Dieu, j'arrive. Enfin, je sais pas, il y a plein de femmes qui sortent dans des bars et elles voient bien qu'elles peuvent lever, qui elles veulent. Et bien, à un moment donné, ben, elles se disent, en fait, ouais, maintenant, comment je peux le cadrer et comment je peux... C'est un business, après, c'est l'histoire du point business. Il y a des gens qui apprennent du massage, ils font pas de cabinet, ils continuent à faire du massage en famille. Et puis, à un moment donné, il y a... de Dieu, je peux me projeter là-dedans. Et puis, je peux effectivement en tirer du bénéfice. On est dans une activité et voilà, c'est juste cette projection qui change.
Je répète, on n'est pas tous des boulangères. C'est pas parce qu'une femme elle accepte une fois de faire une prestation tarifée qu'elle devient une prostituée. Il faut distinguer beaucoup entre les prostituées occasionnelles, les prostituées de week-end, les prostituées de boîte de nuit et puis les prostituées professionnelles. C'est des choses complètement différentes.
Cathy,
est-ce qu'il y a une clientèle féminine?
Mais soit pour les gigolos, soit pour les femmes.
Et ça se mesure à, dans quelle proportion?
Tu peux dire quelque chose, Judith?
Bon, alors, maintenant, moi, je peux maintenant pour moi seulement parler des clientèles femmes maintenant en situation de handicap. C'est peut-être 10%, mais en train d'augmenter. Puis il y a quand même aussi des clientèles femmes pour des escort boys, non? C'est un peu une autre façon de peut-être chercher l'homme prostitué, parce que ça se passe plutôt vers internet, c'est plutôt un peu plus discret, c'est plutôt un escort, voilà, comme peut-être aussi dans le travail du sexe pour les hommes qui sont des soirées. C'est peut-être parfois un peu différent, mais ça existe absolument et c'est en train d'augmenter parce qu'il y a aussi des femmes qui ont du succès au travail, qui ne veulent pas avoir une relation non pas du temps, comme les hommes qui viennent dans le salon de massage, qui ont trop de succès et qui ont plus de temps pour une vie privée, une vie de famille, une vie de couple, donc, mais qui veulent quand même un peu d'humanité, un peu d'échange quand même, un peu de chaleur humaine de temps en temps. Oui, ça existe, des clients femmes.
Je vais rajouter, pour moi ça a toujours existé, les clients femmes. Hein. Moi je me souviens d'aller avec des clients à Venise, Tassana, dans le petit room, il y avait autant de gigolos accompagnés de personnes féminines âgées que de personnes accompagnées avec des hommes âgés. Enfin, après c'est quand même une niche, parce qu'effectivement, pour moi c'est un peu une niche, mais c'est l'avenir, clairement, en termes de. Pour le coup, c'est un marché à devenir.
Pour en tout cas, dépassé, disons, collaborer avec les institutions, parce que justement là c'est autre chose.
C'est par rapport à la démarche que c'est autre chose. Non, c'est tout ce qui est autour qui est beaucoup plus compliqué. C'est tout le contact avec les tiers, avec l'institution, avec peut-être, je sais pas, un curateur. C'est tout ça qui complique la chose. À la fin, la prestation, le sexe, ça, c'est pas si différent que ça. Il y a parfois aussi quand même un autre objectif, mais on peut aussi pas dire que toutes les clients maintenant, entre guillemets, valides, viennent juste pour se vider. Mais il y a là aussi un désir de se sentir homme tout court, parce que peut-être on a des problèmes dans la vie privée, pour vraiment assumer sa virilité, d'être soi-même sans être jugé. Ça, c'est pas quelque chose qui est unique aux personnes en situation de handicap, mais c'est pour eux, ils sont un peu plus souvent quand même confrontés à ce qui ne correspond pas à l'image de performance qu'il faut maintenant avoir de ces jours-là, non plus à l'image de perfection maintenant physique, mais qui correspond à l'image parfaite physique. C'est pas si différent que ça, mais c'est vraiment toute la démarche autour. Et puis après, il faut aussi quel handicap, non, s'il s'agit de handicap mental, c'est encore une toute autre question.
Il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé dans le métier travailleuse de sexe. C'est l'aspect thérapeutique vis-à-vis des par rapport aux troubles sexuels des clients. Et j'aimerais peut-être donner la parole à Fabian, qui a fait une étude sur ces sujets. Ce qui était pour moi très surprenant, de découvrir le travail de thérapeute des TDS.
J'allais de toute façon naturellement rebondir sur la question, parce que donc ça fait 10 ans que je travaille à Aspasi, 4 ans de projet de bus avec les hommes, 6 ans les bus de la rue, la nuit, accueil des femmes, préservatifs, café, vaccin. Et puis, il y a un moment, on m'a mandaté en fait pour réfléchir un peu à la systémique du milieu et comment faire en sorte que des messages de safer sex se diffusent dans le milieu, chez les femmes, chez les hommes, chez les clients, chez les patrons de salon, ne les oublions pas. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fait un projet qui s'appelle Faire Sex Work, vous pouvez aller voir sur internet, fxw.ch, et avec une charte, voilà, qui était sur. Et puis, il y a un moment. On m'a demandé aussi de répondre à des clients en ligne sur un autre site qui s'appelle donjuan.ch. Et il s'est avéré que des fois je réponds simplement à des questions de prise de risque. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, est-ce que c'est dangereux? Souvent, il y a moins de risque pris que d'angoisse d'avoir eu recours à une prostituée, et encore plus quand c'est une prostituée trans, parce que c'est des gens qui ont fait des choses qu'on ne sait pas pourquoi faire, et puis ça pose des questionnements. Et une fois, j'ai eu un échange pour fournir avec un client et il m'a lâché au bout d'un échange de 3 mails. Il m'a dit quand même, vous avez du culot d'avoir appelé ce projet Don Juan. Vous croyez franchement que les clients, on est des Don Juan? Et ça m'a complètement presque excité. Je me suis dit là, il y a un filon, il y a quelque chose qui est dit. Et effectivement, je me suis tourné vers pas mal de TS et on a beaucoup discuté de la prise en charge des clients. Y avait-il des dysfonctions sexuelles? Quelle nosographie est-ce qu'elles faisaient? Est-ce qu'on tombait dans la même nosographie que la sexologie médicale, donc les mêmes catégories, ou est-ce qu'elles ont fait des catégories différentes? Comment elles les expliquaient en termes de vécu et qu'est-ce qu'elles faisaient face à ces dysfonctions? Alors là, déjà, il s'est avéré qu'en fait, il y avait pas mal de clients qui. Pas mal, c'est pas forcément une majorité, mais en tout cas une proportion significative, un petit 20% qui pouvaient avoir des problèmes sexuels et qui venaient avec une demande là autour. Donc là, on a toute une sexologie grise qui est paramédicale, c'est super intéressant. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que pas mal de clients, en fait, l'argent, c'est une béquille. Et ça va me permettre de juste poser quelque chose que j'aime bien toujours poser quand il y a des vastes auditoires. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille assez calviniste du coin. Les prostituées sont des pauvres femmes qu'on a tirées par les cheveux et qu'on a obligées à faire ça. Et les hommes sont tous des satyres qui adorent abuser des femmes, surtout quand elles n'ont pas envie. Voilà un peu tout le moins je connais. Donc en 10 ans à Aspasi, ça a été vraiment une révolution. C'est-à-dire que j'ai vu des femmes qui sont plutôt hyper autonomes. quand je dis hyper, je le mets en gras, je le surligne, des fois même, je me demande si c'est pas un handicap, mais ça, je contournais mon chat si bien, donc je le dis aussi, c'est ce besoin d'hyper-liberté, c'est quelque chose de flagrant dans le milieu. Et oui, en fait, peut-être que ces clients, il y a quelque chose qui est jamais dit, mais qui, enfin, y aller avec de l'argent en poche, c'est peut-être un peu cette virilité symbolisée dont tu parlais qui manque, ce questionnement, voilà, j'ai quelque chose à offrir, donc je peux approcher une femme et demander un rapprochement intime, sexuel, parce que moi j'ai aussi quelque chose à offrir. Ça, ce serait un des prototypes de clients, mais il y en a vraiment plusieurs, et puis, enfin voilà. Voilà, rebondissez là-dessus.
Sur l'aspect thérapeutique.
L'aspect thérapeutique. Alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des médecins, psy, infirmiers. Enfin, actuellement, il y a un gros trend vers l'intersubjectivité, comprendre les émotions du patient. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire avancer des thématiques. Certainement, en tout cas, quand on est dans un setting médical, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher les corps, on ne va pas rentrer en matière, on ne va que pouvoir se regarder, dire « je pense que vous ressentez ça », la personne va pouvoir le ressentir, rentrer en empathie, et puis voilà, on peut avancer comme ça. Mais ce que j'ai été très étonné de voir que les TS, en fait, elles ont un autre outil qui est purement phénoménologique, elles proposent un nouveau setting, un nouvel acte qui va fonctionner ou pas, et après on est dans des boucles de feedback positif comme elle décrit, c'est-à-dire ça marche, donc on y revient, et petit à petit, il y a une prise en charge qui se fait aussi comme ça, et qui est complètement non orthodoxe pour l'académie, et encore plus pour l'académie qui est quand même souvent liée à la morale judéo-chrétienne. Donc tout ça se mélange et s'entrechoque, et on est dans une période assez intéressante en tout cas en Suisse par rapport à ça. Je pense que le setting assez libéral de la Suisse actuellement a beaucoup profité au TS ici. Maintenant, je ne suis pas en train de faire un chant, je ne suis pas le chant du libéralisme, je suis plutôt du centre, mais on voit aussi en Allemagne ce que ça donne, ces énormes sex centers avec 70 femmes qui bossent pour 50 francs la base. Enfin, je ne dis pas que le libéralisme c'est la solution, mais en tout cas, j'ai une dernière chose à vous dire, puis comme ça j'en vais parler pour la soirée. J'ai été très étonné de voir pas mal de Hongroises et de Roumaines débouler ces derniers temps, accord bilatéraux oblige, protocole numéro 2, sur la scène du travail de rue. Et j'ai été très content de voir que ce qu'on prône à ce au niveau théorique fonctionne sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de femmes arriver avec des taxis, des hommes qui étaient derrière, qui les contrôlaient, qui les protégeaient, parce qu'en Roumanie, ils ne pourraient pas bosser si elles n'avaient pas cette protection. Vu que la police ne peut pas être la protection, donc dès qu'on criminalise le travail du sexe, on ne peut pas téléphoner à la police parce qu'on a un client violent. Donc c'est le réglementarisme a cet avantage de faire de tout l'appareil policier un éventuel appareil de secours. Et j'ai vu ces femmes petit à petit venir ici, commencer à comprendre comment ça fonctionne, entendre plusieurs fois, vous savez, on a un code pénal, vous n'avez pas le droit d'être prélevé, vous devez être indépendant, etc. Et dans la rue, mais dans les salons, c'est pas le cas, dans la rue, j'ai vu des femmes passer de ce statut accompagné, en 2-3 ans, à vraiment maintenant venir seules, prendre leur train, faire leur 90 jours, donc elles ont 90 jours, hein, c'est le fameux statut de Metz, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu les politiques migratoires actuelles en Suisse. Indépendant a le droit à 90 jours pour s'essayer au marché suisse. Ça peut être un plombier, ça peut être un charpentier, ça peut être une TS. Si le bilan est positif au niveau économique, on peut demander un permis. Et donc je vois qu'en fait, oui, les femmes s'autonomisent quand on leur donne des droits et la possibilité de travailler. Et quand on est dans des pays où plutôt on leur dit, de toute façon, quoi que vous disiez, quoi que vous pensez, vous êtes hétéronome, c'est pas vous qui avez choisi, vous êtes... soit alors on a des arguments, votre vie infantile est une catastrophe, c'est pour ça que vous en êtes là, votre vie affective est une catastrophe, c'est pour ça que vous en êtes là. Si vous aimez ça, c'est parce que vous êtes une nymphomane, les femmes ne sont pas nymphomanes, vous ne représentez pas les femmes, enfin, et voilà, il y a tout plein d'arguments, et de facto, c'est plutôt dans ces pays-là que les femmes restent sous le joug de raison. C'est juste ça que j'avais envie de poser. Et puis, la dernière étape, c'est au bout de 3 ans, 4 ans, 10 ans, souvent, c'est vrai que ça met du temps, de travail du sexe. Après cette fameuse période où il y a beaucoup de clients, beaucoup d'argent, on est narcissiquement rempli, on se dit « je plais ». C'est vrai que des fois, il y a des femmes, elles vont vraiment très haut dans la toute puissance, en début de carrière. Mais il y a de toute façon un moment où ça se tasse. Et puis, à ce moment-là, c'est dans les pays réglementaristes qu'il y a des associations pour discuter « qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre ? Comment ? Quels sont les projets qu'on pourrait mettre en place ?» Parce qu'en règle générale, en tout cas en Thaïlande, ils adorent les rescue centers. Donc c'est, on prend les femmes qui vont dans des quartiers, on fait des razzias et puis on leur offre le logis, l'école et tout. Il y a maintenant des études métasociologiques qui sont faites. Il y a 95% des femmes restituées qui sont à nouveau sur le trottoir 10 ans plus tard. Donc en fait, c'est un modèle qui ne marche pas tant que ça. Et là, je pense que vous aurez peut-être de quoi rebondir. Parce que je ne sais pas comment vous auriez vécu le fait d'être restituée.
Madame ?
Je n'étais pas restituée.
Vous avez une question au centre ?
Parce que finalement, il y a presque un rapport entre intimité et argent, et comment on gère ça, comment on fixe les tarifs entre nous-mêmes, pour le dire comme ça.
Comment on fixe les tarifs par rapport à l'intimité?
Non, mais est-ce que c'est par rapport à la durée du temps où vous restez avec la personne?
Concrètement.
Oui, c'est les deux choses. C'est par rapport au temps et par rapport à la prestation. Et il y a des prestations que ça peut durer très longtemps, mais elles viennent de faire la même prestation en une heure, alors on s'accorde. Mais comme dans tout le travail, le temps se paye normalement. Et puis si vous allez encore le dentiste, si vous allez juste pour un nettoyage des dents, et puis vous allez vous faire une chirurgie dentale, c'est pas le même prix. Chez nous, c'est pareil. Je déteste le dentiste, en fait.
Il y avait une question, monsieur ?
Attends, je crois Eric voulait dire quelque chose. Non ?
Je vais demander quelle est la proportion de femmes itinérantes en Suisse qui pratiquent le travail du sexe ou dans la région par rapport à celles qui sont établies en Guinée ? Est-ce qu'on a une idée ?
Par rapport à celles qui sont établies en...
En Suisse.
Passeport suisse ou permis, c'est ça ? Ouais. Moi, je ne suis pas un spécialiste, en plus.
Fabien.
Moi, personnellement, j'étais ailleurs.
Fabien.
Vous pouvez vous répéter la question.
Quelle est la proportion de femmes itinérantes qui viennent de l'Anjou, qui viennent 3 mois, je ne sais pas quel temps, d'étrangères qui viennent un moment et qui repartent, par rapport aux travailleuses du sexe, aux travailleurs du sexe, qui sont là, qui sont établis, qui vivent en Suisse, qui, c'est quoi la proportion de...
Ah, c'est très évolutif. Je dirais que avec les accords de libre circulation et les deux protocoles, on a toujours plus de femmes qui font les longs jours, toujours moins qui sont permis des permis. Les Suisses, ça devient une rareté. Je dirais qu'actuellement, là, en 2015, mais ça va encore bouger, selon le projet de loi au niveau fédéral qu'on nous fait sur l'immigration en 2016. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en 2015, il y a 60% de longs jours. Oui, et donc ça change toute manière de travailler en tant qu'association communautaire. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ne se sentent pas implantées, elles ont tout le fantasme qu'après les 3 mois, elles s'en être mis plein les poches à Genève, elles ne reviennent plus jamais cette ville. Donc il n'y a pas le même enracinement, la même envie de se battre pour des droits. Voilà, on a tous les problèmes en fait des assos qui bossent avec les migrants. Plus le fait qu'il faut maîtriser 12 langues, bah moi.
Michel ?
Et vous avez une question à propos de la violence. Ce serait déjà dans quelle mesure vous êtes victime ou vous sentez un certain nombre de comportements violents, un comportement violent de la part de certains hommes, et par rapport à la question de la stigmatisation, on a cette impression que cette stigmatisation de pute, c'est un symptôme d'une violence plus générale contre la femme.
Alors, moi je vais vous parler de ce que... Alors, c'est vrai que les hommes, on est à part. Encore. Moi, j'ai jamais trop vécu ce stigma. Je suis pas c'est pas comme ça que je l'ai entendu. Moi, je me suis toujours assez senti à l'aise. Et peut-être qu'effectivement, dans le milieu gay, ça vécu différemment. J'ai même rediscuté avec des patrons de certains établissements qui me disent moi aussi, j'ai fait ça pour payer mes études. Enfin, je sais pas, on peut en parler assez librement, il me semble, quand même. Est-ce que c'est différent pour les femmes?
Ouais.
Ça évolue quand même, je crois.
Ouais.
Non, mais c'est clair, mais ça évolue quand même. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer trop là-dedans.
Non, ça évolue pas.
Et la violence? La violence, tu as rencontré?
Sur les questions de violence, moi, c'est la rue, donc c'est des fois violent parce que tout d'un coup ça part en live. Mais c'est pas dans le quotidien non plus que c'est violent. C'est le contexte. Moi, je voulais juste rebondir quand même sur le tableau un peu noir, sur ces histoires de libre circulation. Avant, moi je suis arrivé il y a, donc, c'était il y a combien de temps, 25 ans en Suisse, et si j'avais eu un permis, il aurait fallu que je me marie, et donc je serais déjà un passeport suisse. Aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est tout. Et donc c'est aussi ce qui explique aussi le fait que plein de parcours de femmes à l'époque, elles étaient étrangères, elles les installaient, elles faisaient des papiers et elles continuaient à bosser. Ce qui est effectivement plus le cas maintenant. On est dans un contexte où les gens circulent. Voilà. Moi, je pense que c'est juste de réaffirmer ces histoires de valeurs. Et c'est là où je pense qu'on est OK sur l'histoire du faire sexe quoi. C'est-à-dire, c'est quoi le sexe? Le commerce du sexe. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie, c'est là-dessus qu'il faut qu'on transmette aussi des valeurs. C'est vrai que le réglementarisme permet d'une certaine manière de le faire, mais ceci dit, on en parlait, aujourd'hui, le proxénétisme, c'est l'immobilier, c'est les patrons de salon. Donc je veux dire, est-ce que c'est mieux que d'être... Enfin voilà, il y a des réseaux, effectivement, mais il y en a quand même très très peu, parce que je ne sais plus combien, c'est une dizaine de condamnations, je crois, en Suisse. Voilà, donc bon... Voilà, le chef de réseau, apparemment, ça ne court pas non plus les rues. Par contre, les gens qui abusent au niveau des loyers immobiliers, ça court les rues. Par contre, les gens qui abusent sur les prestations et les conditions de travail dans les salons, ça court les rues. C'est quand même ça. Enfin, donc, ramenons les choses à... Et ça, souvent, hein, c'est non seulement certains, les gens très bien implantés ici, voire natifs, et qui, politiquement, des fois même, ont des discours très durs sur les questions d'immigration.
Je dirais aussi la violence, c'est vraiment plutôt l'exploitation. C'est, si je dois donner 40 ou maintenant c'est même 50% sur chaque client, un propriétaire du salon, c'est une violence. C'est une forme de violence. Si je paye, je sais pas, des loyers abusifs, c'est aussi une forme de violence. Moi, j'ai pas vécu des violences maintenant physiques vraiment. Non, mais c'est aussi si on est assez sûr de soi, ça bloque assez vite puisque les hommes sont pas dans la position forte. C'est nous qui décidons qu'est-ce qui se passe normalement. Donc non, violence physique, moi, ni dans les salons de massage, j'ai pas fait l'expérience. Si on refuse des clients alcoolisés, normalement il n'y a pas de problème. Avec les clients en situation de handicap, j'ai pas encore eu des problèmes de violence. Mais alors c'est vraiment plutôt une violence physique, d'exploitation d'argent, et ça vient pas directement des clients, ça vient des gens qui profitent autrement, donc des gens qui louent les appartements, qui tiennent des salons, qui profitent d'une manière ou d'une autre du travail du sexe.
Alors, pour parler de la violence, parce qu'on est à Paquis, on travaille dans la rue, et c'est pas la même chose que d'être protégé peut-être dans un salon, protégé entre guillemets. Mais dans la rue, on remarque très souvent que les personnes qui sont les plus grossières ou les plus, comment on dit, les plus violentes oralement vers les prostituées sont les personnes qui viennent des pays où le sexe est un tabou. Alors, je ne veux pas dire le nom des pays, mais je pense qu'on les connaît tous. Et c'est des personnes ils sont mal à l'aise à parler du sexe, à faire du sexe ou à envisager qu'ils ont un sexe. Alors, ces personnes-là, elles manifestent une violence assez éclatante. Et pour la stigmatisation, je dis toujours, moi, je suis bien dans ma peau, dans ma tête, dans ma vie. Si vous considérez que moi, je suis une prostituée, que je ne vaux rien, que je suis une pauvre victime, c'est votre problème, pas le mien. Moi, personne ne me paye le loyer, alors. Sincèrement, c'est une question un peu l'hypocrisie. Je dis toujours que les défauts, ils sont privés, et les vertus, ils sont publics. Alors, devant tout le monde, on est tout le monde joli, et dans le privé, on fait n'importe quoi, et des choses qu'on aurait honte, quand même, de que quelqu'un les voit. Alors ça, je trouve très hypocrite. Alors, moi, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Je ne suis pas mon métier, je suis une personne à soi-même, avec une vie et tout ça. Le stigma, c'est dans la société, ils ont comme besoin d'avoir le mouton noir ou tiré par ah, bah, c'est celui-là, voilà. Mais il y a toujours des stigmes en différentes époques de la société. Avant, c'était les juifs, c'était horrible les juifs. Après, c'était je ne sais pas qui. Il y avait le racisme, il y a toujours quelqu'un à qui donner la faute, dit que dans la société elle ne marche pas. Donc, qui mieux de les prostituer, parce qu'ils sont toujours là, c'est pas pour rien le métier le plus vieux du monde. Malgré tout ça, on est là, on résiste et on est fiers de faire ce qu'on fait.
Je vais juste peut-être dire une chose qui n'a pas été dite ce soir, parce que je trouve qu'on est toujours plus pertinent quand on n'est pas angélique. Et travaillant dans des bus de nuit, voyant chaque semaine des nouvelles femmes débarquer, voyant si le travail du sexe pour elles, ça fonctionne très bien, moyennement bien, pas bien, ou si c'est la déprime totale, ça existe aussi. Là, c'est marrant parce que c'est la violence qui m'a fait penser à ça. Je trouve que les femmes qui, d'entrée de jeu, souffrent tout de suite de la prostitution, je vois un profil très classique en ce moment qui est là depuis 5-6 ans, c'est les femmes qui sont venues post-crise Espagne, qui avaient déjà traversé l'Atlantique et qui s'étaient mariées, qui ont des enfants en Espagne, donc elles ont déjà vraiment le courage de traverser l'Atlantique pour réussir en Europe. Paf, il y a tout qui s'effondre en Espagne. Elles ont maison, hypothèque, enfants et mari au chômage. Donc elles viennent ici en disant je vais sauver la mise. Eux, ils peuvent continuer, les enfants peuvent continuer les études, moi je continue à payer la maison, mon mari, ma foi, va chercher du travail, va certainement galérer. Et moi je fais en sorte que le projet s'effondre pas. Et c'est vrai que là, je vois un profil de femme trentenaire, quarantenaire, qui n'a jamais fait le travail du sexe, qui a eu une espèce de lubie, de désespoir, enfin je sais pas, quelque chose qu'elle s'est dit, j'y vais, je tente le tout pour le tout. Et elles sont fondamentalement ce qu'on appelle en jargon sexologique complétives ou fusionnelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais séparé sexualité et relation et tendresse. Et voilà, pour elles, la sexualité a toujours été englobée, visiblement depuis l'adolescence, par le couple et la chaleur humaine. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas ça dans le travail du sexe, ne m'y prenez pas, mais pour ces femmes-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe qui est violent. Mais quelque part, je voudrais aussi que vous réalisiez que quelque part, elles ont au moins 50% de cette violence, elles se l'auto-infligent, elles sont là, elles veulent absolument tenir à ce projet. Et voilà, c'est toujours ce problème de l'argent. Hein. Je vais citer quelqu'un, je vais prendre un pseudonyme, Vanessa, qui m'a souvent dit, voilà, le problème de la prostitution, s'il devait y en avoir un, c'est qu'il y a quand même une... l'argent est trop mis, peut être trop mis au centre. C'est-à-dire, soit parce qu'on réussit super bien et qu'on gagne 30 000 balles par mois et qu'on, bon, je dis, on a des roquettes sous les pieds, on touche plus le sol, on pense qu'on est la star, fini de la planète et que les autres n'ont rien compris. Et ça peut durer quelques années. Soit, ça joue pas, mais on continue, on persévère, on dit qu'on veut pas lâcher, on dit qu'on veut pas demander d'aide. Et ces femmes-là, franchement, elles ont très mal. Et souvent elles boivent et ça donne donc des travails du sexe dangereux parce que quand on boit, on est... Voilà, ce profil existe aussi, hein, ne dressons pas un profil complètement angélique, hein. Mais elles n'ont pas été tirées par les cheveux. Elles ont pris EasyJet comme tout le monde.
Alors, il y a une question, madame à ma droite et ensuite monsieur à ma gauche.
Je me demandais, le travail du sexe et ton travail, je me demandais s'il y avait... Enfin,
vous insistez beaucoup, c'est ça, hein? Promotion.
C'est ma Miss Sandwich, je ne sais pas qui, vous ne l'avez pas vu.
Alors, comme je vous dis, il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ce travail. Je connais beaucoup de femmes qui sont dans des situations de désespoir, vraiment de désespoir, ou des crises financières très difficiles qui arrivent dans ce travail, disant, ouais, je vais faire plein d'argent, et puis qu'une fois qu'ils ont fait le premier client, ils s'est mis à pleurer, elle dit, je ne suis pas capable, je n'arrive pas, ce n'est pas pour moi. Alors, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Il faut avoir tout comme ça, bien grosse. Ce n'est pas évident. Et si j'ai considéré ce travail, écoutez, chacun il doit savoir avec quoi est-ce qu'il a à voir. Chacun il doit avoir ses possibilités, ses capacités, ses limites. Et c'est comme si vous considérez faire le boulanger ou le dentiste. Je considérerais, à part que je déteste vraiment le dentiste, je ne considérerais jamais à mon fils de faire le dentiste. Parce que c'est un métier que j'aime pas, mais c'est à lui de choisir, c'est pas à moi, c'est lui qui va faire le dentiste, pas moi. Alors c'est lui qui devrait voir ses capacités, ses dons, la façon, la même chose pour la prostitution. Je ne peux pas te dire, oui, je te conseille, c'est super, écoute, tu couches avec des mecs très beaux et tu ne gagnes pas 30 000 balles par mois. Je vous assure. Alors, conseiller ou déconseiller ne pense que ça appartient à personne dans ce métier. Et c'est surtout un métier qui a à voir avec l'intimité. Et là, c'est chacun qui doit gérer ça. Chacun doit gérer sa intimité comme mieux lui convient, en toute liberté.
Oui, je pense aussi. Alors, moi, j'ai deux filles. Je leur recommanderais maintenant pas de faire ce travail. Forcément. Non, je serais franchement assez heureuse si elle ne le ferait pas, parce qu'il y a d'autres manières un peu plus sûres, un peu plus cool de peut-être exister dans cette société, parce que c'est pas évident d'être toujours quand même un peu à la marge. On n'est quand même pas. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'avais peut-être toujours un peu de problèmes de m'intégrer vraiment, de faire comme tout le monde, ça m'a pas tellement plu. Donc, c'était pour moi plus facile. Mais si on cherche une sécurité aussi dans la vieillesse et tout ça, c'est peut-être mieux de choisir un autre métier. Mais sinon, en 2016, peut-être il y aura une formation en assistante sexuelle. C'est donc une manière de devenir travailleuse du sexe. Vous pouvez me laisser vos coordonnées.
Juste, moi, je voudrais compléter, parce que, alors, c'est vrai que on parle beaucoup de travail du sexe ou de travailleurs et de travailleuses. Bon, moi j'ai un parcours qui fait qu'aujourd'hui je peux entendre ça, mais je travaille aussi avec plein de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas se déterminer comme tel. Et aujourd'hui c'est une opportunité financière. Et c'est vrai que, bon là on parlait effectivement des jeunes migrants, mais entre autres sur Internet aujourd'hui, des choses comme ça, on voit bien qu'il y a plein de gens qui saisissent des fois les opportunités de se faire un peu d'une comme ça. Et c'est aussi des choses qu'il va falloir qu'on questionne maintenant, nous. Alors, est-ce que c'est la société qui doit se questionner? Est-ce que c'est nous, sur la manière dont on communique, effectivement, là-dessus? En tout cas, pour moi, le fait qu'avant, c'était difficile et compliqué, c'était, on va dire, un niveau comme ça, un peu. C'est vrai que maintenant, le fait qu'on puisse négocier une prestation sexuelle, ça se banalise quand même un petit peu. Et c'est là où je pense que, à nouveau, hein, c'est vraiment sur c'est quoi la relation tarifée, quoi. Qu'est-ce que donne l'argent et qu'est-ce que permet l'argent, et surtout qui est derrière et qui reçoit, et comment la personne va être libre de déterminer si elle souhaite, comment et dans quel cadre elle est prête et dans quelle limite. Et en fait, je crois que c'est le seul discours qu'on. Si jamais il y a un truc à communiquer, c'est pas sur le travail du sexe, youpi, c'est génial, on peut gagner 30 000, c'est bien à un moment donné, attention. C'est pas à généraliser, on va pas permettre, parce qu'aujourd'hui il y a des multimillionnaires qui grossissent, qui peuvent s'acheter n'importe quoi. Mais on va dire que ça se répercute à d'autres niveaux de la société, hein. Ça se répercute sur la sexualité, et ça se répercute sur aussi d'autres modes d'économie, on va dire. Mais voilà, c'est vrai qu'on est dans des bouleversements économiques, et je pense que c'est là où il faut avoir un discours, en tout cas clair et identifiable.
Monsieur ?
J'aimerais bien revenir sur une position en prostitution de la rue et des salons. Il n'y a pas une prostitution, il y a des prostitutions. J'aimerais bien vous entendre si vous êtes les syndics ou les maires d'une ou l'autre ville, avoir un peu votre avis politique. J'imagine que la prostitution de rue, vous verrez, n'est pas la même dans le cas. Mais on a parlé de violence, on a parlé de liberté aussi. Finalement, si vous étiez maire et syndic, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous
feriez cohabiter, est-ce que vous favoriseriez
plutôt l'une ou l'autre?
Je n'ai pas compris si on favoriserait plutôt la prostitution de rue que des salons.
Oui. Oui.
Alors moi, je pense qu'on parlait justement en train, quand on venait vers ici, on parlait d'une complètement autonomie des personnes prostituées, qu'elles se gèrent soi-même, qu'elles forment des coopératives et qu'elles se gèrent son business soi-même. Alors la prostitution, elle est prostituée. Je ne vois pas pourquoi des gens qui sont assis devant une télévision comme les gérants des salons, ils doivent percevoir des loyers exorbitants et ne font rien, et mettons juste une publicité sur Internet. Alors la chose la plus intelligente, c'est que les femmes soient à un niveau de maturité pour se gérer soi-même en collectivité. Ça, c'est pas évident avec, comme vous voyez, notre immigration itinérante, des gens qui vont, qui viennent, de très peu de gens qui restent ici toute l'année, c'est pas évident. Mais ça serait la chose idéale. Ce qui serait pour ou contre l'une, Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des salons, j'ai travaillé dans tous les stades de la prostitution. Escort de luxe, escort normal dans les hôtels, par internet, dans les salons, dans tous les stades de la prostitution. Et la meilleure chose que j'ai jamais fait, c'est commencer la rue. Là, je ne changerai pour rien au monde. Il y a deux hivers en arrière, j'ai cherché de travailler dans un sex center au Paquis parce qu'il faisait vraiment très froid. Et sincèrement, c'est le marque d'or du sexe, c'est comme les box centers à Zurich, c'est juste, c'est pas possible. La rue, ça donne toute une autre chose, vous avez un appartement à disposition, vous prenez le client dans la rue, vous l'amenez chez vous, c'est lui qui vient chez vous. Et vous avez un endroit pour l'accueil, c'est totalement une autre chose qu'un sex center. Alors, moi, je préconiserais plutôt la prostitution de Roma, c'est pas dit. S'il y a une coopérative, comme il faisait avant en Italie, les maisons closes, qui s'est autogérée, il y avait une madame qui gérait le truc juste pour les tirer les oreilles, et puis tout le monde faisait ce qu'il devait faire, il s'est protégé l'un à les autres, ça serait une chose géniale, ça. Je trouve que ça, ce serait la meilleure solution.
Julina, toi, tu es une femme super courageuse. Pas toutes les femmes sont aussi courageuses que ça. Moi, je connais des femmes même qui préfèrent de travailler donc dans un salon et donc de ne pas devoir déjà s'exposer dans la rue. C'est pas pour tout le monde parce que tu es exposée aux commentaires, à des choses probablement assez désagréables, peut-être d'autres mondes. C'est pas pour tout le monde. Alors moi, je dirais, il n'y a pas à préférer l'un ou l'autre. À préférer, c'est vraiment l'indépendance, que l'exploitation sera pas si grande. Donc, six salons, des salons autogérés, ça sera magnifique, ça c'est clair. Mais il faut laisser la place pour toutes les formes de prostitution, parce que sinon, la liberté est partie. Donc, tu dois être libre de décider si tu veux travailler à la rue, ou sur la rue, ou dans un salon, ou comme escorte via Internet.
Si vous permettez, on va encore prendre, parce qu'il y a des questions.
Juste, moi, j'aimerais réagir à ça, parce que c'est la synthèse. Enfin, pour moi, c'est la clé. Ouais, on l'a dépassé. Mais à l'époque, moi, je me souviens à Genève, il y avait des immeubles qui appartenaient à des régies d'État, hein, et des régies qui étaient destinées, hein, à la location pour les personnes qui se prostituaient. Et c'est ça. On a besoin, pour répondre, alors, sur les personnes qui sont là et qui sont fixes, effectivement, un appartement, ça va très bien, mais on a besoin d'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on a besoin de chambres avec une petite kitchenette et des points d'eau, ce qui n'est pas le cas, hein, aujourd'hui, hein, dans les critères aujourd'hui qui coûtent 100 francs par jour, qui sont facturés 100 francs par jour. On a des trucs, des box de 3-4 mètres carrés, des fois sans fenêtre, pas une cuisine pour, à l'étage pour tout le monde. C'est ça la réalité aujourd'hui du marché. Je ne sais pas, je ne connais pas précisément le cas de Vaudois, hein, mais je sais qu'à Lausanne, quand ils ont fermé ce qu'était rue de Genève, en tout cas c'est ça, hein, ce qu'était rue de Genève, c'était assez catastrophique, mais en même temps, il n'y avait rien d'autre qui était proposé. Donc à un moment donné, c'est aussi des choses... Alors, on est dans un surtout économique. Aujourd'hui, on nous dit que c'est rentable. De toute façon, une hôtellerie, c'est rentable. Donc c'est des choix politiques à faire. Qu'est-ce qu'on fait pour effectivement accueillir ce marché? Voilà. Alors, courir après tout le monde et interdire, certains ont fait ce choix-là, on voit ce que ça donne, c'est pire, ça se déplace partout. Au moins là, on sait où c'est, on accueille dans des bonnes conditions, et mine de rien, ça limite un peu les places de travail. C'est-à-dire que si jamais on détermine qu'effectivement il y a tant d'hôtels, et bien une fois que j'ai des plaintes, les personnes doivent attendre la semaine d'après qu'il y a une place qui se libère. Et la difficulté au taxi, par exemple, c'était la multiplication des places de travail avec ces surdimensionnages d'appartements. Ça, c'est aussi des impacts. Je sais pas ça.
On ne répondra pas à cette question ce soir.
Encore une dernière question, monsieur Ossant, qui est la
question très courte, monsieur qui est à Genève. Est-ce que, parce que vous avez parlé d'immigration intra-européenne, mais aujourd'hui, on voit qu'on a une pression migratoire, est-ce que c'est en train de changer justement, je dirais entre guillemets, le marché, ce qui se passe? Parce que là, sur l'intra-européenne, vous avez dit qu'il y avait 90 jours, tandis que ces migrants, ce que j'appelle des vrais migrants, comment vous arrivez à les intégrer? Qu'est-ce qui se passe pour ça?
Alors, à Genève, la question elle est réglée. La loi sur la prostitution a décrété en 2010 que les personnes devaient s'enregistrer. Donc, quand elles s'enregistrent, on vérifie qu'elles puissent avoir un statut de séjour. Et si elles ne peuvent pas, elles ne sont pas enregistrées.
elles ne peuvent pas travailler. On va me dire, bah alors, qu'est-ce que ça peut faire? Elles ont qu'à aller sur la rue et travailler. Bah, ce qui se passe, et ça, personne n'y avait vraiment pensé, en tout cas pas nous, peut-être qu'ils y avaient pensé au niveau politique, c'est qu'il y a une autorégulation, l'illégal, elle joue. Il y a une personne non cartée qui arrive sur le même trottoir que l'illégal, dans la demi-heure, elle a appelé la police pour la dénoncer. Dans la demi-heure. Il y a un salon illégal qui s'installe au-dessus d'un salon légal. Dans les deux jours, le salon légal a appelé les flics et a signalé le salon illégal. Donc là, on a une espèce d'autorégulation qui se met en place. Maintenant, dans d'autres cantons, comme le canton Vaud, mais qui sont en train de réfléchir à leur poste, et puis vous avez ici dans la salle quelqu'un qui suit très bien le dossier du comité de Fort de Ravet. Bah pour l'instant, il n'y a pas cette obligation, donc il y a pas mal d'illégales qui viennent plutôt bosser canton de Vaud, que canton de Genève. J'avais juste aussi envie de boucler sur la demande de monsieur. Moi, je crois que c'est très simple. Si vous arrivez à mettre en place un mécanisme où il y a des locaux, pas forcément grands, mais avec sanitaire, où c'est des femmes qui signent leur bail, malgré le fait qu'elles ne pourront jamais vous présenter de certificat de salaire. C'est leur gros problème. C'est pour ça que les salons vont si bien. C'est parce qu'ils surfent là-dessus. Elles n'accèdent pas à l'immobilier. Si vous arrivez à mettre en place un quartier comme ça, qui fonctionne plutôt sur le mode coopératif, avec une mission, et puis qui donne les contrats aux femmes, en règle générale, c'est des bonnes payeuses, ça va fonctionner. Quant au travail de rue, on le voit aussi à Lausanne, c'est très actuel, à la Seine. On a pu entendre l'autre jour à la table ronde vaudoise que ce qui posait problème, en fait, c'est pas le travail du sexe de rue, c'est des voitures qui font énormément de bruit. Donc il y a toute cette réflexion à avoir sur rue sans voiture, et est-ce possible? Et ça, c'est de l'urbanisme de haut niveau. C'est-à-dire que, non, mais ils le font, hein, à Amsterdam, enfin, en Hollande, il y a des quartiers entiers où on arrive en bagnole par l'extérieur, on fait tout à pied, on met les trucs sur le nez. C'est possible, mais ça demande du courage. Vous ne serez pas beaucoup suivi par vos électeurs.
Moi, je voudrais juste rebondir sur la question de la migration. Juste
non,
rebondir.
C'est bon, ça c'est
bon. Non, c'est bon. Parce que, entre autres, le projet Mensex Work, nous, on a développé. Donc, un axe effectivement migrants vulnérables. Et c'est vrai que nous on s'est aperçu qu'il y avait principalement beaucoup de jeunes hommes qui étaient migrants, qui erraient, et que c'était une opportunité. Et pour nous, c'est là où c'est un travail de proximité. Parce que évidemment, alors là pour le coup, on se retrouve face à des communautés qui n'ont pas forcément à l'aise sur la sexualité, encore moins la sexualité tarifée. Et moi je suis plutôt heureux du travail qu'on a mené et qu'on mène encore, parce qu'en fait, on est clairement identifié comme projet. Prostitution, homo, et ça passe, on arrive à quand même connecter ces populations. Mais par contre, effectivement, il faut déployer des moyens. Aujourd'hui, maintenant, il y a quand même une volonté, on va dire, à terme, en tout cas, de développer des pôles qui permettront de prendre en compte cette réalité et cette itinérance de cette migration qui, effectivement, ne tarit pas pour l'instant.
Écoutez, je vous propose qu'on poursuit éventuellement la discussion de manière plus informelle et plus détendue encore. J'aimerais remercier encore, au nom du groupe vaudois, chaleureusement Eric, Angelina, Judith, Fabien Champeau et Béate Michel. Je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, en juin, le 10 juin prochain, ça sera la dernière séance.
On ne sait pas encore ce que ça sera.
Voilà, ça sera la surprise si vous voulez connaître un peu notre programme. Bon, ça, c'est la fin de la saison, mais pour le prochain, on a un site internet qui s'appelle philo-vaud.ch. Voilà, merci beaucoup de votre présence et puis à très bientôt. Alors, oui, juste pour ceux qui sont habitués, donc, le bar là-bas est fermé parce qu'il y a autre chose, donc on a notre bar privé, personnel. Voilà, merci.
Ça va faire de pas vivre.
Vous êtes pressés,
merci beaucoup pour cette avancée.
Elle va fumer.
Oui.